Carrefour.
Quand vous me dites
Carrefour baisse ses prix.
Oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon yaourt surgelé et traiteur de la mer. Comme le pot de 850 g de yaourt protéiné nature 0% skyr de Yoplait qui passe de 3,76€ à 3,39€, soit 10% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Prix baissé à compter du 1er juillet 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détaillez liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. De midi à 14h, à partir de 14h, ce sera évidemment le Tour de France sur RMC, intégral Tour. Autour de moi aujourd'hui, il y a Paul Lassaigne, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Il y a Thierry Moreau, journaliste média. Salut Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
On met les mots dans le bon ordre et tout va bien. Voilà, Yaël Mellul est avec nous, ex-avocate, présidente de Femmes et Libres. Salut Yaël.
Salut Rémi, bonjour. Bonjour à tous.
Et Perico Legas, journaliste à Marianne.
Bonjour,
salut Perico.
Bonjour Mireille.
Tout va bien. Allez, dans un instant, agression, insulte, libération de la parole, qu'elle soit raciste, xénophobe, antisémite ou homophobe, les Français sont-ils devenus irréconciliables? On vous demande de nous appeler, de témoigner au 32-16 à 13h. Une coalition nationale anti-RN, depuis les communistes jusqu'au LR, se moque-t-on des Français? Et puis à 13h45, le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. Et évidemment, il y a l'euro. On a tendance quasiment à l'oublier, l'euro de foot, mais pas sur RMC. Et on vous offre de très beaux cadeaux, un très beau cadeau.
Oui, cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister à la demi-finale de l'Euro 2024 qui aura lieu le mardi 9 juillet à 21h. C'est à Munich. On vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC qui seront présentes à Munich pour cette demi-finale. Et bien sûr, vos deux places pour la rencontre. Alors, dès que vous entendez cette alerte à l'antenne, vous avez 5 minutes pour jouer, vous inscrire en envoyant Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC Estelle Midi.
La violence du jour. En pleine entre-deux-tours des législatives, le climat s'est encore un peu plus tendu ces dernières heures. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, candidate dans les Hauts-de-Seine à ces législatives, et son équipe ont été victimes d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. Ils auraient été pris à partie par une vingtaine de personnes. En Savoie, cette fois, c'est une candidate du RN qui se retire de la campagne après avoir été violemment molestée lors d'un tractage sur un marché. Paul, les condamnations sont unanimes.
Oui, au sein de la classe politique, quel que soit le parti, on s'inquiète de ces agressions à répétition. Hier soir sur BFM TV, Jordan Bardella dénonçait l'agression de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Je pense que c'est la violence, c'est le cancer de la démocratie, disait-il. Ce matin également, concert de réactions dans les interviews politiques sur RMC. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, s'inquiétait. On ne peut pas accepter cette violence qui devient physique, c'est une menace contre la démocratie. François Ruffin, candidat du Nouveau Front Populaire dans la Somme, dit lui, on avait déjà un pays au bord du burn-out, là c'est un risque de crise de nerfs. François Ruffin qui constate également un immense ressentiment chez les Français. Enfin, Fabien Roussel lui s'inquiète pour les jours à venir. On va avoir des jours difficiles dans les semaines qui viennent. Retrouvons de l'apaisement et de la sérénité.
Et Paul, plus largement, c'est le climat de toute cette campagne qui semble désormais délétère.
Oui, la LICRA, avant même le premier tour, alertait les signalements pour des actes de racisme et d'antisémitisme ont bondi de 38% depuis la victoire du RN aux élections européennes le 9 juin dernier. Le discours anti-étranger devient banal, dit l'association. Au niveau culturel aussi, la parole se libère. Une chanson qu'on peut qualifier de xénophobe, « Je partirai pas », avait fait le buzz avant le premier tour. Et un clip de rap qui compile les clichés sexistes et antisémites, notamment « No Passaran », est sorti il y a 2 jours. Alors, ce risque de fracture sociale, il inquiète aussi les forces de l'ordre. Un membre du syndicat des commissaires de la police nationale, interrogé anonymement par nos confrères du Figaro, le dit. Si le RN obtient une majorité absolue dimanche, il y aura des manifs de la casse. On doit s'y préparer.
Agression, insulte, libération de la parole, qu'elle soit raciste, antisémite, homophobe, sexiste. Les Français, est-ce qu'on est devenus tous irréconciliables? Vous nous appelez au 32-16. Yael, je me tourne vers toi d'abord. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit. Hier, on avait dans les Français en direct, c'est notre nouvelle rendez-vous, notre nouveau rendez-vous sur RMC pendant cette entre-deux-tours des législatives. On va chaque jour, on fait un tour de France, en fait, des Français. On interroge des Français sur leurs sentiments durant cet entre-deux-tours. Hier, on était avec un apiculteur bio. Il nous disait, alors lui, vote à gauche. Il disait, moi, même avec mes voisins qui, eux, votent très à droite aujourd'hui, avant on discutait, avant on échangeait, aujourd'hui on n'y arrive même plus. Est-ce qu'on n'y arrive plus?
Je crois que on est arrivé à un niveau de violence extrême en France qui a été alimenté, exacerbé par les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la violence physique qui a été subie par l'équipe de Thévenot et aussi par la maire Rassemblement National, c'est un symptôme, cette violence physique, c'est un symptôme d'un mal qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le langage politique est devenu violence. Donc cette violence-là, elle se répercute forcément dans la société. On n'arrive plus à parler entre nous, mais moi, je vais quand même me permettre de mettre l'accent sur ce qui, moi, m'inquiète aujourd'hui le plus, c'est l'explosion de l'antisémitisme en France. En juin, on a une augmentation des actes antisémites de 73%, ce qui est absolument énorme. Alors, ce qu'on voit, les violences physiques subies par des femmes et des hommes politiques quand ils font des collages, j'ai envie de dire, c'est un peu la face immergée de l'iceberg. Alors, c'est ostentatoire, c'est le plus fort, on va dire, en image. Mais il y a toute cette violence qui est souterraine, cet antisémitisme qui commence à creuser son sillon profondément dans la société. Quand une gamine de 12 ans, elle est violée parce que juive, c'est bien parce que le langage qui a été véhiculé par un parti politique, il est venu s'ancrer dans des mentalités jusqu'au passage à l'acte, jusqu'à l'inéluctable. Enfin, je veux dire, c'était évident qu'à un moment donné, il y aurait un passage à l'acte d'une exceptionnelle gravité.
Il n'y a pas d'échelle de valeur entre ces... Ce sont des délits, donc condamnés par le droit.
Ben là,
mais il n'y a pas d'échelle de valeur.
Si, il y a...
Non, mais je suis d'accord avec toi sur l'antisémitisme, mais il y a aussi le racisme. À tel point que Jordan Bardella a reconnu effectivement qu'il y avait des brebis galeuses parmi ses candidats du RN. On a entendu des propos quand même ces derniers jours, tenus par certains candidats qui sont au deuxième tour de ces législatives.
Oui, alors
et qui sont des propos clairement xénophobes.
J'ai entendu. Alors, à la différence entre les brebis galeuses du Rassemblement National et les antisémites assumés des Insoumis, ouais, c'est que dans un premier cas, Jordan Bardella, il me semble, a été catégorique hier. Il a dit, il dégage.
Ouais, enfin, il a dit qu'il y avait 2-3 brebis galeuses. Voilà. Quand on regarde ce qui se passe vraiment.
Ouais, et ben je pense. Moi, je lui fais confiance. Moi, je lui fais confiance, il les dégagera. Et en tout état de cause, ces propos qui sont tenus, est-ce qu'ils donnent lieu à des crimes? Je ne crois pas. Quand une femme de 88 ans, elle est agressée, elle est passée à tabac par 3 jeunes après l'avoir traitée de sale juive. Quand un jeune homme est agressé parce que supposé juif et qu'il est insulté, traité de sioniste et qu'on le force à scander « Vive la Palestine » et que 8 membres de la jeune garde qui est fondée par le candidat LFI, Raphaël Arnoux, ont été mis en examen pour une agression antisémite, on est dans le passage à l'acte antisémite qui est clairement créé par le discours des insoumis.
Agression, insulte, libération de la parole, les Français sont-ils devenus irréconciliables? Vous nous appelez au 3216, Thierry.
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'abord la société, effectivement, on est face à une élection de combat où les projets sont très tranchés. On est face aussi à une campagne d'une soudaineté absolue, ce qui fait que il y a pas de nuance. On est dans la rapidité, on est dans on va très vite au sujet. La brutalisation aussi de la parole publique, incarnée par certains élus aussi, procède de tout ça. Ça, c'est pour la société. En ce qui concerne les campagnes électorales, on a juste la mémoire très courte. Excusez-moi, mais enfin, des couleurs d'affiches qui sont morts. Hein. Il y en a eu en 68, hein. Il y en a un qui s'appelait Marc Lanvin. Il y en a eu en 71, en 86, en 95. Donc la violence des campagnes électorales toutes les couleurs entre couleurs d'affiches, ça existe depuis très longtemps. Moi, j'ai connu la campagne de 81 avec du verre pilé dans la colle pour pas qu'on puisse arracher des affiches, exact. Avec les manches de pioche dans certains coffres pour empêcher de coller des affiches. Donc, je pense que on s'était peut-être déshabitué à ça très clairement, mais je trouve que, alors évidemment, les agressions, les deux agressions dont tu as parlé sont absolument ignobles, condamnables, scandaleuses, tout ce qu'on veut, mais entendons-nous bien, les campagnes électorales, et de surcroît lorsqu'elles sont rapides, et je le disais, soudaines et donc brutales, elles exacerbent forcément un peu ça, et les violences en politique dans les collages d'affiches ont toujours eu lieu dans notre histoire, toujours.
Éric Olégas.
Le spectacle que certains parlementaires de la République française ont donné à l'Assemblée nationale jusqu'à la tête d'Olivier Dussopt qui roule décapité dans le cadre de l'hémicycle de l'Assemblée nationale a donné un exemple à la population. Ça veut dire que les députés peuvent le faire au nom de leur opinion politique qui sont un spectacle. Donc on peut menacer de mort, insulter, faire des associations avec eux. Même Macron s'est fait traiter de nazisme. Moi j'ai juste un malaise. L'antisémitisme, la résurgence, elle est par rapport au conflit entre, j'allais dire, les juifs et les musulmans sur la question israélienne. Et ça a d'état en France où, pour prendre fait et cause pour la Palestine ou contre Israël, ça a engendré un antisémitisme. Depuis le 7 octobre, c'est exacerbé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que le 7 octobre, c'était un acte de libération ou de rébellion contre Israël. Dans les médias, quand c'est un acte antisémite qui vient de la gauche, c'est oui, mais il faut comprendre ce qui se passe en Israël, à Gaza. Quand c'est un acte antisémite qui vient de la droite, ah, c'est parce que ce sont des descendants du pétainisme et ce sont d'anciens nazis. Ça, c'est pas possible. Et les citoyens français, ils font tout de suite la différence et ils comprennent qu'on leur raconte des bêtises. Donc l'exacerbation, elle est là. Donc, ou on fait la part des choses cohérentes. Aujourd'hui, le Rassemblement National, très malin, ils sont en cravate, ils font attention. Bardella a dit abject hier pour les 5 cas. Il y en a d'autres. Ils ont encore beaucoup de gens d'extrême droite dans la mouvance RN. Elle a viré son père à coups de pied dans les fesses, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas encore tout nettoyé, et on voit bien qu'il y a une petite base au RN qui n'est pas forcément recommandable moralement par rapport à nos valeurs politiques. Mais on voit bien dans quel sens ils vont. Ce qui est étonnant, c'est que des partis de gauche, la France Insoumise, des écologistes, Jean-Luc Mélenchon, qu'on a connu, sénateur socialiste, un homme voilà qui était pour la laïcité, la citoyenneté, se permettent aujourd'hui d'avoir des écarts de langage, d'avoir des propos, d'avoir une idéologie du conflit. Il appelle à la rébellion, il appelle à la punition, il appelle à la sanction. Et je ne peux pas croire qu'il se satisferait d'une majorité absolue du Rassemblement National pour dire, eh bien ça y est, les fascistes sont au pouvoir, on peut soulever. Donc aujourd'hui, effectivement, le camp de la gauche qui devrait pacifier est celui, et ça ne dédouane pas ce qui se passe à droite, le camp de la gauche est à l'origine de la tension qu'il y a dans ce pays et de la haine qui est en train de se développer. Les couleurs d'affiches ouais, entre eux...
Quand tu vois la LICRA qui dénonce une multiplication des incidents de la libération de la parole raciste, par exemple, raciste, est-ce que tu crois que c'est vraiment de la faute de LFI?
Mais pourquoi est-ce que la parole raciste, elle se libère? Parce que si les autres peuvent le faire, ben nous aussi. D'accord. Ben oui. Bon. Quant aux couleurs d'affiches, c'était les couleurs d'affiches à l'époque où l'affichage était sauvage et libre. Oui. Ils se foutaient sur la gueule. Voilà. Aujourd'hui, tout ça est réglementé. Ce qui s'est passé, je voudrais qu'on ait toute la vérité sur ce qui s'est passé à Meudon. Toute la vérité.
Il y a une enquête d'ouverture.
Voilà, qu'on fasse pas comme en Espagne pendant
quand il y a. C'est un panneau officiel.
Hein, oui. Voilà. Non, je veux te dire qu'on ait la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé et que les gens qui sont à l'origine de ce commando soient bien dénoncés. Je me souviens en Espagne, c'était soi-disant ETA qui avait fait des attentats. En fait, on avait caché que c'était les islamistes. Finalement, ça a été découvert. Ils ont perdu les élections. Donc, on n'aille pas faire du mensonge maintenant. Je veux la vérité sur les auteurs de cet attentat.
Agression, insulte, libération de la parole. Les Français sont-ils devenus irréconciliables? Vous nous appelez au 3216 et Julien est avec nous. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour à tous.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes en Haute-Garonne, c'est ça, Julien?
C'est ça, tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie?
Assureur.
Bon, est-ce que vous vous sentez comme un certain nombre de ceux qui sont autour de moi, ou ce que dit par exemple la LICRA notamment, que l'ambiance, le climat est devenu délétère?
Oui, je le pense. Alors, par contre, je voulais d'abord rebondir sur une chose. J'hallucine de ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que pour Monsieur Collégas, c'est votre invité, votre autre chroniqueuse, j'ai oublié son nom. C'est la gauche qui est responsable de la montée du racisme et de l'antisémitisme.
Non, j'ai pas dit ça.
Moi, je l'ai dit.
Vous l'avez
dit. Vous l'avez dit.
Vous l'avez dit à l'instant. Je trouve ça, mais hallucinant, cet inversement des valeurs. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose d'incroyable.
Parce que le Kleptopasaran, vous trouvez ça bien? Il est de droite, le Kleptopasaran? Est-ce qu'il est de droite, le Kleptopasaran?
Mais arrêtez de parler de clips de rappeurs, de des gros cassos, que tout le monde s'en fout, vous en avez rien à tirer à longueur d'année de ces gens-là. Ils représentent personne. C'est des caricatures d'eux-mêmes, ces gens-là. Donc ne les prenez pas comme exemple. On va prendre comme exemple plutôt les gens qui sont investis, qui sont potentiellement de futurs députés de l'extrême droite. Ils sont beaucoup plus importants, ces gens-là, que 20 pauvres petits rappeurs.
C'est aussi grave.
Que j'aime le rap, moi.
C'est aussi grave, je suis d'accord.
J'aime pas le rap d'aujourd'hui. Enfin, mon passion, c'est pas le sujet. Arrêtez de vous focaliser sur des bricoles qui sont insignifiantes. S'ils passaient par la télé, personne n'aurait écouté ce
clip. Ah ben oui, tout est là, vous avez raison.
Mais personne n'écouterait. Alors, il suffit d'aller à la sortie d'un mythique du RN pour écouter les gens et pour vous rendre compte que le racisme, c'est une... C'est quelque chose qui est ancré chez eux. Alors je veux bien qu'il y ait quelques brebis galeuses qui votent pour le Rassemblement National parce qu'ils sont en colère contre la société. Bon, ben, grand bien leur face, on verra ce que ça donnera dans 5 ans. Peu importe. Moi, en tout cas, pour répondre à votre question sur l'irréconciliabilité d'une partie du peuple français...
Il fallait réussir à la prononcer, ce mot. Hein. Bravo.
Oui, tout à fait, mais je crois que j'ai mal prononcé, pour le coup.
Non, mais tout va bien.
Donc,
est-ce que les Français sont irréconciliables? Oui, selon
moi. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas quelqu'un de radical, je ne fais partie d'aucun extrême. J'ai ma sensibilité, je suis un humaniste. Mais bon, ça, il y en a à droite ou à gauche, donc ce n'est pas une question de clivage, si vous voulez. Par contre, ce que je vois, c'est que moi, je ne pourrais plus faire société avec des gens qui ont une parole libérée, parce que vous parlez de nos passaranes, et on en parle de la chanson raciste sur laquelle M. Zemmour dansait, sur laquelle toute l'extrême droite se gargarise, une vraie chanson raciste. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, les M. Zemmour, les M. Meyer Habib, les Golnadel, qui depuis, il suffit d'aller sur les réseaux, ils ont que l'islamo-gauchisme à la bouche, ils ont que l'antisémitisme à la bouche, alors que la grande majorité des antisémites en France sont d'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de gauche, il y en a partout, comme des racistes. Ma femme est d'origine franco-marocaine. D'accord, je sors dans la rue, ça fait 35 ans qu'elle vit dans ce pays, comme moi, elle est née ici, on a la même culture, on a grandi avec les mêmes dessins animés, on a joué au même jeu dans les cours d'école, et bien aujourd'hui, elle ne s'est jamais plainte du racisme en 35 ans. En 35 ans, ça n'a jamais été.
Mais là, elle sent que ça change.
Et bien ça commence, ma belle-mère qui a fait le deuil de son mari, vous savez, dans la culture musulmane, vous avez les femmes doivent porter, elles ne portent pas le voile, hein, habituellement, elles doivent porter un petit voile blanc pendant 3 mois pour le deuil. Bon, mais on est dans un petit village, il n'y a pas de délinquance, il n'y a rien, le FN, ils ont fait 40%. Il y a 3 Arabes, ma belle-mère et ma femme qui y vivent. Il n'y a pas un délinquant. Les seuls délinquants qu'il y a, c'est des Jean-Jacques de 50 ans qui sont bourrés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut arrêter un peu. Elle s'est fait agresser, ma belle-mère. Verbalement. Parce qu'elle promenait mon chien.
On lui a dit quoi?
Un monsieur lui a dit de loin, il est circoncis, votre kleps. Mais je veux dire, on est dans quel monde?
C'est le racisme, ce qu'on appelle le racisme ordinaire.
Mais exactement, et ça, c'est au quotidien.
La libération de la parole.
Et quand j'entends que le racisme ne tue pas, mais c'est incroyable de dire ça en 2024. L'antisémitisme tue, mais le racisme aussi. C'est fou comme aujourd'hui, mais sur toutes les ondes. Hein. Alors, je parle même pas de CNews, parce que CNews, c'est une caricature. Comme CNews, si vous voulez, c'est les rappeurs de l'extrême droite. Voilà. Et eux, ils ont une chaîne à eux.
Je peux pas vous laisser, c'est pas possible de dire une chose pareille.
Merci Julien, votre témoignage, Julien, qui nous appelait depuis la Haute-Garonne au 32-16. Tu peux lui laisser dire quoi?
Tu peux pas laisser dire que CNews, ce serait une chaîne raciste qui véhicule. Je suis désolée.
Julien n'est pas le seul à le dire.
Voilà, mais je comprends pas qu'on laisse dire ce genre de choses. De la même manière que je comprends pas qu'on laisse dire, qu'on stigmatise Golnadel, Zemmour, comme par hasard, enfin voilà, d'accord. Et moi, Yael Mellul, d'accord. Alors moi, Yael Mellul, en tant que citoyenne juive, parce que c'est quand même moi la concernée, moi je vais dire
je suis plus concernée que toi, Rémi, tu m'excuseras, parce que en attendant
c'est une petite fille juive qui a été violée, c'est une femme juive de 86 ans qui a été agressée aussi, et c'est un jeune homme juif qui a été agressé aussi à Paris, d'accord.
Il y a des jeunes hommes maghrébins qui se sont fait tabasser par des groupes d'extrême droite en disant tu n'as rien à faire ici, ces gens-là ont été arrêtés, ils vont passer devant la justice aussi,
d'accord.
Il y a des homosexuels qui se font
agresser, d'accord, mais il y a une explosion l'invasion des actes antisémites.
Mais on ne le nie pas.
Et quand aujourd'hui il y a des manifestations, quand aujourd'hui il y a des manifestations à Paris, d'accord.
À aucun moment on ne.
Je trouve ça inadmissible, vraiment. Et quand aujourd'hui dans des manifestations à Place de la République, moi j'entends de la mer au Jourdain, Israël assassin, qu'est-ce que c'est?
Mais on est d'accord.
Est-ce qu'il y a des manifestations aujourd'hui en France où on entend à mort les Arabes? Non.
Alors il y en a eu, hein.
Aujourd'hui
non, mais il y en a eu par le passé. Il y en a eu par le passé, Yael.
Ouais, bah, alors qu'il y a quelques années, dans les rues de Paris, moi j'ai entendu à mort les juifs. Et voilà où on en est aujourd'hui.
Jean Viard est avec nous. Bonjour Jean Viard.
Bonjour, difficile, oui.
Oui, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, Jean Viard. Est-ce que bon, en tout cas, on peut pas le nier, je pense pas que le climat est délétère en ce moment. Mais est-ce que cette France, là, il y a une véritable fracture française? On l'a senti, certains l'analysaient, mais de plus en plus.
Non, mais je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. En plus, là, il y a d'un côté des événements liés aux élections. C'est vrai que c'est un peu tendu parce qu'elles sont courtes, parce que l'extrême droite croyait qu'ils allaient gagner. Ils sentent que c'est plus sûr, etc. Puis on va dire une chose purement technique, c'est que ça a été tellement vite qu'il fallait coller ses affiches soi-même. Alors que d'habitude, on sous-traitait à des professionnels, donc évidemment, personne n'allait leur taper dessus. Donc c'est un espèce de contexte, mais ça explique aussi, même si c'est anecdotique. Non, mais il y a une légère augmentation sur la politique, mais calmons jeu, il y a deux jours, voilà. Et je crois qu'il faut dire effectivement que la démocratie, c'est que chacun peut coller ses affiches. Il y a une autre question, est-ce qu'il y a une augmentation de violence dans la société? Un peu, c'est incontestable, je veux dire. C'est incontestable, faut pas non plus exagérer. C'est vrai qu'il y a une parole raciste libérée, notamment depuis que l'extrême droite est très fort, et qu'on voit bien les plein de gens qui vous disent des remarques parce qu'il est noir, parce qu'il n'est pas d'ici, quand est-ce que tu rentres chez toi, etc. Bon, est-ce que c'est massif? D'abord, j'en sais trop rien, je pense pas. Mais je pense qu'il y a une libération et que suivant les résultats de dimanche, cette libération de la parole vis-à-vis notamment des Noirs va augmenter. La question vis-à-vis effectivement de la communauté juive et des agressions des seuls objets, là aussi c'est incontestable. Tout le monde voit bien que c'est lié effectivement à ce qui se passe entre l'agression en Israël et par le Hamas et puis après le bombardement de la Palestine, donc c'est de Gaza. Et donc c'est clair que c'est lié à cet événement. Mais il y a un danger de monter effectivement, et que il faut le répéter tous les jours, il faut soutenir la communauté juive parce qu'elle peut être attaquée ou effectivement par des relents d'extrême droite ou par effectivement des mouvements d'extrême gauche. Et c'est un enjeu majeur que la société française est une société qui doit affirmer son non-racisme. Mais il y a une montée. Mais n'exagérons pas, il y a beaucoup d'endroits, je dirais qu'on en parle plus dans les médias qu'au café du coin.
Ouais, c'est bien de remettre les choses à l'endroit, malgré tout.
Il y a un effet, effet loupe, évidemment, des réseaux sociaux et des chaînes tout info par rapport à, effectivement, à des événements, des incidents de campagne qui, encore une fois, avaient lieu avant, de manière beaucoup
plus. On les invente pas. On est d'accord.
Non.
D'accord.
Non, mais tout à l'heure, Julien, qui est en Haute-Garonne, témoigne. C'est le témoignage de Julien qui est en Haute-Garonne dans une petite commune. Le témoignage de l'agression verbale qu'a subi sa belle-mère, elle tombe pas du ciel. Bon voilà, donc il y a ces effets-là.
Non non, mais attendez, il y a une libération de la parole raciste.
Oui, vous l'avez dit, j'en viens. Ouais,
mais il y a pas de rapport entre la présence, par exemple, des immigrés et le vote pour l'extrême droite d'un point de vue géographique. Le vote pour l'extrême droite, il est beaucoup plus un vote de gens qui vivent loin. Pour le caricaturer, il est le plus fort dans les hameaux isolés. Et il est le moins fort dans les banlieues. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les banlieues isolées, ils regardent la vie à travers la télé, ils ont l'impression qu'elle est à feu et à sang, et eux, ils sortent de chez eux et c'est cool. Ils disent, mais c'est incroyable, si ça arrive chez nous, ça va être l'enfer. Et c'est l'inverse dans les.
Et justement, Jean Viard, est-ce qu'il n'y a pas cette fracture, quand même, entre la France, j'aime pas cette expression, mais c'est pas grave, mais au moins, on comprend ce qu'on veut dire, la France des territoires et celle des grandes villes?
Oui, mais là, si vous voulez, c'est clair qu'il y a effectivement. Vous savez, il y a une chose très simple. Ce qu'on appelle le monde ouvrier, le monde populaire. Ces gens-là, maintenant, ils habitent massivement dans les lotissements. Et ces lotissements ont massivement voté pour le Front National. Pourquoi? Mais parce que ces populations qui, à 30 ou 40 ans, habitaient dans les banlieues, ont accédé au pavillon, et c'est le rêve de leur vie. Et ça, notamment la gauche ne l'a absolument pas compris. On continue à parler d'habitants en hauteur, etc. Or, c'est 67% des Français qui habitent une maison avec jardin. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ont fait ces forces de gauche? Pas que les forces de gauche, d'ailleurs. L'extrême droite a compris ça beaucoup plus vite. Et donc, c'est à un moment, les milieux populaires qui avaient accédé à ce qui était leur rêve, la maison avec jardin, le barbecue, le chien, parce qu'il y a 80% d'entre eux un chien ou un chat, mais ça qui était leur rêve, rappelez-vous, il y a encore un ministre il n'y a pas longtemps qui dit il faut arriver à supprimer les lotissements, etc. Donc si vous voyez une méconnaissance du projet des milieux populaires, eh ben, les Front National l'a récupéré. Mais la faute est autant, je dirais, à ceux qui n'ont pas su évoluer leur discours, et donc qui n'ont des électeurs que dans les villes, soit par LFI, en visant la communauté musulmane, soit effectivement les autres partis en travaillant, que ce soit d'ailleurs les En Marche, puis j'appelle plus En Marche, Ensemble, les socialistes, ils ont à peu près le même électorat. On a un vrai problème de rupture parce qu'on n'a pas compris l'évolution de la société. C'est d'ailleurs le grand enjeu des prochaines années, c'est comment on va repenser ce territoire. Et ces gens-là, ils manquent de médecins, etc., parce qu'on n'a pas organisé le territoire en tenant compte du fait que 67% des gens habitent dans une maison avec jardin.
Ouais. Merci Jean Viard d'avoir été avec nous, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi, on continue de parler de ce climat, de cet entre-deux-tours, agression, insulte, libération de la parole. Les Français sont-ils devenus irréconciliables? Vous nous appelez au 3216, il y a Florian qui nous attend, il y a Mathieu aussi. Tiens, Florian, il est avec nous, Florian?
Oui, oui, je suis là.
Bonjour Florian, on marque une pause, mais avant je vous pose la question, est-ce qu'on est devenus irréconciliables?
Non, c'est une question de vivre ensemble.
Bon, on a encore de l'espoir. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous allez nous expliquer, Florian. C'est dans un instant, dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 14h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. On continue de parler du climat actuel de l'entre-deux-tours après des agressions de candidats, des insultes, une libération de la parole, qu'elle soit raciste ou qu'elle soit encore antisémite ou homophobe, les Français, ou sexiste même. Les Français sont-ils devenus irréconciliables? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216 et Florian est donc avec nous. Bonjour, rebonjour Florian.
Rebonjour.
On est dans les Vosges, c'est ça?
Oui, on est dans les Vosges.
Dans quel coin des Vosges, Florian?
Près de Saint-Dié, près de Gérardmer. Ah.
Très bien, très joli.
Le pays du Munster.
Exactement. Vous faites quoi dans la vie, Florian?
Moi, je suis enseignant.
D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, je vous posais la question juste avant, que nous sommes devenus irréconciliables? Selon vous, il y a encore de l'espoir?
Ah oui, tout à fait. C'est juste que maintenant, les gens n'ont plus de filtre.
Oui.
Et tout sort tout de suite, se voit sur votre plateau, sur le plateau des grandes gueules. C'est-à-dire que dès qu'on aborde un sujet, il y a de l'énervement.
Ouais.
Voilà. Encore plus là avec les élections, bien sûr. Mais donc on peut pas parler de binationalité sans qu'il y en ait un qui soit traité de raciste ou voilà. Il y a des sujets maintenant qui sont inabordable.
Et autour de vous, est-ce que vous le ressentez aussi?
Alors moi, je suis dans le bastion du RN.
Ouais.
Non, mais c'est-à-dire que nous, c'était une des premières grandes zones où le FN, à l'époque, avait beaucoup de voix, et là, c'est le RN, mais il n'y a pas... Enfin, je constate pas plus d'actes racistes qu'avant.
Mais quand vous discutez avec des collègues, avec des amis, dans votre entourage, des voisins, est-ce que vous ne sentez pas une certaine tension?
Alors, quand on est des...
Peut-être que vous évitez de parler politique, hein, j'en sais rien.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ce matin au boulot, on a commencé à aborder le sujet, on a arrêté tout de suite.
Pourquoi? Donc entre enseignants, vous travaillez dans le primaire ou...
Voilà, entre enseignants. C'est-à-dire que...
Donc dans la salle des enseignants, au café du matin
Voilà, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que qu'il y a la gauche et la droite irréconciliables. Enfin, je dis pas que je suis de droite, hein, c'est pas la question. Mais on ne peut pas, par exemple, l'extrême droite peut avoir une mesure intéressante sans que ça crée une polémique et qu'on se jette des anathèmes.
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vous jette comme anathème, par exemple?
C'est-à-dire que si je dis, c'est un exemple.
Ouais.
Si je dis le RN a dit qu'aujourd'hui il faisait beau et qu'il fait beau, eh ben on va me dire non.
Florian, vous êtes un nazi, hein, on va vous dire.
Voilà. mais pareil de l'autre côté, hein.
C'est très vrai. C'est une vraie.
Perico.
Oui, Florian a totalement raison. Le principe de la démocratie, c'est d'écouter l'adversaire, d'être dans la polémique, même avec véhémence, de discuter. Aujourd'hui, en France, on rejette l'anathème sur celui d'en face. C'est ancien, hein, le débat droite-gauche. Mmh. C'est un pays où le débat politique est le plus clivé. Je pense que ça remonte aux guerres de religion, où dans une même religion, à partir de l'évangile, on s'est massacré pendant 20 ans. Ouais, et aujourd'hui,
sauf que là, Perico, et
ça,
on me ressortait pas le Conseil d'État qui a dit que.
Non,
sauf que là, c'est pas un débat droite-gauche.
C'est un débat
extrême droite.
Oui, alors, on disqualifie. Donc, moi, j'ai trouvé des lois de la France insoumise qui étaient exceptionnelles. Sur des questions agricoles, alimentaires. Mmh. Il y a des propositions du Rassemblement National. Le Rassemblement National a pillé le lexique chevènementaux séguinistes, chevènement-séguin, c'est-à-dire des républicains qu'on dit souverainistes. Ils l'ont pillé, ils s'en sont accaparés. On a dit à la classe politique, faites attention, ils sont en train de s'emparer sur la citoyenneté, la laïcité, la patrie, la république, de thèmes qui sont des thèmes nationaux de tout le monde. On les a laissés s'emparer et ils sont en train de faire là. Et aujourd'hui, au lieu de dans le débat, la confrontation d'idées, on est dans le dénigrement, la disqualification. Et aujourd'hui, ça monte d'un cran, parce que quand je disais la gauche, il n'y a pas que la gauche, mais la scène à l'Assemblée nationale, où on a vu des députés s'en prendre avec véhémence à des membres du gouvernement tenir des propos, pour les gens, l'opinion publique, se dit, si dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, on peut se comporter avec de tels comportements, avec de tels propos, de telles invectives, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans la rue? Donc, à la classe politique de donner l'exemple tout de suite.
Mais ça va même plus loin que ça, Perico, parce que quand tu as la quasi-totalité des partis politiques qui veulent sortir de l'arc républicain, le Rassemblement National, en intimant en fait l'ordre au peuple de faire barrage contre lui, mais quelle répercussion ça a sur les électeurs?
Il est vrai,
en réalité,
j'entends.
Ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
il y a quelques jours, c'est le président de la République qui mettait dos à dos RN et LFI.
Mais il est vrai que j'entends quelquefois des qualificatifs. J'entends des qualificatifs sur la France insoumise ou sur le Rassemblement National dans des termes violents, dans des accusations. On se demande si ces partis sont bien légaux. Quand on utilise des termes aussi violents et agressifs, ça veut dire que le parti en question, il n'est pas démocratique, il n'est pas républicain.
Il y a ça un peu plus d'une semaine, on traitait d'une déclaration qui a été faite par notre président de la République,
bien sûr,
qui parlait d'un risque de guerre civile.
Mais absolument. Mais Mélenchon et Le Pen sur le même stade, comme si c'était des dangers pour la démocratie. Non, ils sont élus.
Sauf qu'il y a 15 jours...
Ce que vient de dire Perico, c'est une illustration du fait que la diabolisation ne fonctionne plus.
Mais évidemment.
Dire que l'autre, c'est le diable, c'est le chaos, c'est l'anarchie, ça ne fonctionne plus.
Sauf qu'on
aujourd'hui, ce qu'a montré le premier tour de cette élection, c'est qu'aujourd'hui, il y a dans le pays une partie des gens qui ont un véritable désir de rassemblement national. Oui. On peut combattre leurs idées, on peut penser tout ce qu'on veut de ça, mais il y a un désir de ça.
Merci à Florian d'avoir été avec nous, Florian qui nous appelait depuis les Vosges. Mathieu nous rejoint. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Paris, c'est ça Mathieu?
On est dans les Yvelines.
Dans les Yvelines, pardon. Vous faites quoi dans la vie?
Eh ben moi, je suis médecin libéral en secteur 1 dans une zone de désert médical parce qu'il y en a beaucoup.
Ouais. Intéressant parce que vous êtes confronté à un public, donc vous parlez beaucoup. J'imagine on parle beaucoup avec son médecin et peut-être politique en ce moment. Mathieu, est-ce que vous sentez que le climat se tend?
Je pense que j'enfonce pas une porte ouverte. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que le climat se tend. Après, je trouve qu'il se tend particulièrement je rejoins ce qu'on disait précédemment, plus sur la télé, sur les réseaux, où j'ai l'impression qu'il y a quand même une anxiété qui touche une grosse proportion. Et en fait, là où je voulais rebondir, c'est parce que moi, il nous est arrivé un petit truc, mais alors dans un cadre très à l'inverse, pas professionnel, mais plutôt personnel. C'est-à-dire que moi, je suis pas très orienté politiquement. Enfin, je suis orienté politiquement plutôt de gauche. Et il s'avère que il y a pas si longtemps que ça. En fait, je trouve que la difficulté en ce moment, c'est qu'il y a plus de pédagogie dès que vous voulez aborder un propos politique. C'est-à-dire que les gens arrivent avec des mesures. On va prendre la gauche qui va arriver avec son plan économique. Et le seul argument qu'on a, c'est il est impossible d'appliquer le plan économique de la gauche sans qu'on nous explique pourquoi. Moi, je suis pas du tout économiste. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ce plan, il pourrait pas être appliqué de manière simple. Et si vous voulez, là, il y avait un débat sur les grandes gueules. C'était est-ce qu'on s'engueule en famille maintenant en politique?
Oui.
Alors bon. Je crois que depuis que la politique est née, il y a toujours eu des dimanches midi autour du poulet rôti où les familles s'engueulent. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, ma mère qui vote ouvertement au Rassemblement National, et mon petit frère qui vote aussi ouvertement Rassemblement National, avec une cousine qui est ouvrière, donc je vous raconte pas
l'ambiance. Ouais.
Il s'avère que quand je discute avec mon petit frère qui est très pédagogue à chaque fois dans ses propos, ça s'engueule jamais, on n'est pas d'accord, bon ok, très bien, soit. Mmh. Mais on arrive à s'expliquer et tout. Et quand, par exemple, ma mère va rebalancer des idéologies très prônées par l'extrême droite, par exemple, typiquement l'abolition de l'AME.
Ouais.
Moi, l'assistance médicale. Moi, je suis médecin à Trappes, donc des gens qui ont l'AME et qui ont la CSS, qui est l'ancienne CMU, j'en vois peut-être plus que les médecins dans certaines autres zones, quoi. Et quand on lui explique par A plus B que supprimer l'AME, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de financement, de santé, parce que ça représente quasiment rien. La seule explication qu'elle a, c'est ça, c'est toi qui le dis, mais je pense que ça ferait pas de mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Elle veut pas entendre, en fait, votre argument.
Ouais, et je trouve que.
Et ça, c'est nouveau? Ça, c'est nouveau?
Je pense que maintenant, les gens, en fait, sont dogmatiques, quoi. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui prône une idée, les gens se rassemblent derrière. Et puis, on va défendre absolument et on va pas chercher à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et je pense qu'il y a une certaine fainéantise derrière.
Est-ce que vous pensez que Florian, on l'a dit, on l'a traité aussi ici, on parlait d'Emmanuel Macron à l'époque, mais il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de nos responsables politiques sont devenus inaudibles pour les Français?
Ouais, probablement. Regardez, on va prendre l'exemple. Là, par exemple, quand le Covid est arrivé, vous vous souvenez, il y avait Olivier Véran qui était nouveau ministre de la Santé, il est arrivé, ouais, avec des schémas. Et tout le monde trouvait, c'est vachement bien qu'il arrive avec des schémas, on commence à comprendre. Ouais. Et à partir du moment où on arrête d'expliquer aux gens, vous avez ceux qui sont derrière, qui vont retranscrire des messages, mais qui comprennent pas toujours. Et puis, vous avez ceux qui sont un peu à l'opposé, qui vont pas chercher, en fait, à démontrer l'inverse. Et typiquement, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'ai 35 ans, je me considère pas comme vieux. Mais j'ai quand même pas l'impression que dans le temps, les débats à l'Assemblée nationale, c'était des gens qui j'ai l'impression que c'est des gens
quand j'entends sont laisse finir Mathieu, j'ai pas compris. Mathieu, c'est pas des gens qui
dans le temps l'Assemblée nationale, il y avait des débats, les gens n'étaient pas d'accord, mais il y avait toujours une discussion contradictoire. Là, il y a plus de contradiction, il y a plus rien, quoi. C'est des gens qui s'écharpent, qui s'engueulent.
On est dans la vindicative.
Il y a déjà eu des débats violents à l'Assemblée. Et puis par ailleurs, là où vous avez la temporalité des débats, ouais, notamment à cause des réseaux sociaux, notamment à cause des chaînes Tout Info, notamment avec la circulation de l'information très rapide, fait qu'effectivement, on n'a plus le temps d'aller dans la nuance, l'explication et la pédagogie.
Et je n'accuse pas en particulier, je ne dis pas, parce que j'ai essayé d'être équilibré. En tout cas, je pense que c'est d'un côté comme de l'autre. Mais enfin, il y a aussi une volonté d'un parti politique de mettre le bordel. C'était une stratégie à l'Assemblée et ça a bien fonctionné. Hein. Voilà. C'était une stratégie assumée. Voilà. Bon, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. On vous a posé la question agression, insulte, libération de la parole, qu'elle soit raciste, xénophobe, qu'elle soit antisémite, ou sexiste ou encore homophobe. Est-ce que les Français sont devenus irréconciliables?
Eh bien, ce n'est pas l'optimisme qui règne chez nos auditeurs puisqu'ils répondent oui pour 85%.
Waouh, c'est énorme.
Alors, moi, c'est très clair. Oh. Allez. Rien à voir avec notre débat là.
Non, allez, là c'est une bonne nouvelle. C'est le moment pour vous inscrire pour vivre l'expérience RMC Euro 2024 et gagner votre voyage et vos places pour la demi-finale de l'Euro qui aura lieu mardi prochain, le 9 juillet à 21h. Pour ça, c'est simple. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer Euro au 732-16. Euro au 732-16.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le programme avec Anthony Morel. Il y avait un petit homme pirouette cacahuète qui avait une maison en carton. Et ben, Anthony, on a trouvé une. C'est dans un instant. Ouais, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Rémi Barret.
Estelle Midi, midi 14h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Anthony Morel est là, il est venu nous livrer des meubles.
Ouais. RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Il était un petit homme.
Ah bah oui.
Pas mal.
Ouais. Et il vivait dans une maison.
En carton.
Tout en carton, exactement. Salut, Anthony.
Salut.
Tu es censé nous présenter une chronique sur les meubles du futur. Donc on s'attendait forcément à des chaises, des tables, des canapés. Mais t'es venu avec une sorte de, un gros livre.
Ouais, on dirait un gros livre. Ben non, en fait, c'est un tabouret. Voilà ce que je vous ai apporté.
Ça, c'est un tabouret.
Ceci est un tabouret.
Je suis pas sûr d'être bien installé.
Ça. Alors, c'est ta maison de campagne.
Je vais vous faire la démo quand même.
Et pour ceux qui nous écoutent,
parce que sinon, ils vont rien comprendre. Donc ça ressemble effectivement à un gros bouquin. Voilà, c'est en carton.
Ça fait trois fois la taille d'un livre.
Ça fait un gros, très gros bouquin. Ouais. Voilà. Sauf que voilà, je le déplie, hop, voilà, je le fais tourner à 360 degrés, tac, tac.
Ah ouais.
Et on se retrouve avec un tabouret.
Ah oui, t'as même le petit rembourrage, le petit coussin
à mettre dessus.
On dirait un lampion.
On dirait un peu un lampion, effectivement, au niveau design, ou un accordéon, absolument. Ça peut soutenir 300 kilos, ce machin-là, quand même. Donc ça pèse 2 kilos.
Ouais, 2 kilos.
J'ai essayé. Mets-toi dessus.
Je sais pas si on va bien.
C'est pas très.
Alors là, j'explique aux auditeurs. Alors, Rémi est en train d'amener le siège à Perico qui s'assoit dessus. Et le siège n'est pas Perico, cassé.
Tu peux rester là, on ne te voit plus. C'est ça le problème, voilà. Parce qu'il est un peu bas. On disait
Il est très bien.
C'est un siège.
Ah, il est debout. Il est debout sur le tabouret.
Bon, ça va.
Parfait.
Bon, normalement, 300 kilos, on a de la marge, on est bien.
Gymnaste.
Bon, vous avez compris le principe. Alors là, je vous ai apporté le tabouret, qui est la version assez.
Anthony.
Voilà. Donc, le tabouret, bon, c'est un petit objet, mais ils ont fait des trucs encore plus incroyables. C'est une entreprise française qui fait ça. Il s'appelle Stouly, S-T-O-O-L-Y. Et ils font d'autres meubles comme ça. Et notamment un truc absolument dingue, c'est un banc dépliable. Donc, c'est le même principe. Donc, t'as un truc qui fait la taille d'un disque dur d'ordinateur, d'accord?
Ah oui.
Tu vas tirer dessus. Alors là, on voyait le lit pour ceux qui nous regardent à la télé et on va voir le banc juste après.
C'est du pliage de carton.
C'est du pliage de carton. En fait, c'est du carton alvéolaire, absolument. Donc coloré dans les couleurs qu'on souhaite. Là, tu as le banc. Donc tu tires dessus comme un accordéon et tu te retrouves avec un banc, mais qui fait plusieurs mètres de long.
Ah, tu peux mettre de 30 personnes dessus.
Ah bah là, c'est pour de l'événementiel. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est pour les petits espaces, les petits appartements dans les grandes villes, les gens qui vivent dans un studio, dans un deux pièces. T'invites des amis à la maison. Jamais où les asseoir. C'est et bien là, avec ces tabourets, tu mets ça, ça tient dans une étagère, c'est vraiment un gros bouquin, tu le sors, tu le déplies, les gens s'assoient, et une fois la soirée terminée, tu ranges ça tranquillement, ça prend pas de place.
Et j'imagine que tu peux faire tout. Les meubles possibles, enfin, une table par exemple.
Une table, tu peux
imagine, t'es étudiant, t'as un petit studio.
Ouais, absolument.
Et alors, tu vois, pour une fois, t'invites des copains, est six, t'as pas six chaises.
Exactement. Donc les chaises, tu peux les remplacer. Le lit, on voyait à l'instant, non mais le lit en carton. Vous savez
on dort bien dessus quand même.
Alors on dort bien, tu sais bien, à tel point que.
Il y a un matelas quand même.
Alors il y a un matelas quand même dessus, ouais, je te rassure. Aux Jeux Olympiques, tu sais que les athlètes vont dormir sur un lit en carton.
Ah bon ?
Mais bien sûr. Alors c'est pas cette entreprise-là, mais.
Les Français notamment ?
Bah tous les athlètes.
Que les médailles sont pas de
du même matériau. Les médailles sont en or.
Des alvéoles d'abeilles, c'est bien ça.
Absolument. En fait, c'est vraiment du carton alvéolaire. Et donc, du coup, tu as une solidité, une robustesse, parce qu'il faut le savoir. Mais le carton a des propriétés absolument extraordinaires. C'est un matériau qui est décrié, qui est un peu méprisé. Mais non, on peut faire plein de choses avec du carton, y compris de l'isolation, y compris des maisons réellement en carton.
Maisons en carton,
absolument. Qui résiste. C'est pirouette cacahuète qui résiste à des pressions de plusieurs tonnes, qui sont des très bons isolants thermiques, très bons isolants acoustiques aussi. Quand on dit les murs sont en carton, on se trompe. Quand on a des bonnes épaisseurs de carton, en fait, ça isole très très bien. Donc voilà, extraordinaire. On peut faire plein de choses, y compris ces meubles. Je vous redonne le nom de cette entreprise qui a connu un très gros succès lors de la dernière foire de Paris et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux maintenant. Il s'appelle Stouly, S-T-O-O-L-Y.
J'imagine qu'en plus, d'un point de vue environnemental, c'est top.
Ah bah tu peux tout recycler, c'est pas compliqué.
Formidable. Je ne pensais pas prononcer cette phrase aujourd'hui, mais je vais la prononcer. Vive le carton.
Oui, voilà. C'était pas une chronique en carton.
Voilà, exactement. Wow. Merci beaucoup, jaune. Anthony. Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi, une coalition nationale des communistes jusqu'au LR. Pour faire face au RN. Est-ce qu'on moque on se moque des Français ? C'est la question qu'on vous pose. Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story.
RMC, Estelle Midi.